Bonjour, vous êtes sur Phare FM à Guenot et nous sommes aujourd'hui dans notre rendez-vous Zone Libre avec Anita Polican, bonjour.
Bonjour.
Et Yann Lejeune, bonjour aussi.
Bonjour.
Et alors je laisse peut-être aujourd'hui, parce qu'en fait c'est notre deuxième édition par rapport au handicap, et je laisse Anita vous présenter en fait.
Voilà. Donc, je présente mon collègue Yann Lejeune, qui travaille comme moi. Nous sommes tous les deux chargés d'insertion et de formation auprès de l'association Route Nouvelle Alsace. Yann étant plus sur Strasbourg et moi davantage sur Agno.
Merci. Alors, par rapport au handicap, alors le sujet d'aujourd'hui porte notamment sur l'intégration professionnelle, puisque c'est votre domaine, en fait, chargé d'insertion professionnelle dans le milieu du handicap psychique, si je me souviens bien. Ouais, je vois que Yann me hoche de la tête. Ma première question, en fait, ça porte sur les critères. Tel handicap, enfin, telle situation de handicap, tel pourcentage de handicap nécessite une prise en charge, un statut, une aide. Enfin, voilà, quels sont les critères qui amènent telle ou telle prestation ?
Il s'agit essentiellement de critères médicaux et quelquefois aussi des critères sociaux. Hein. Donc, alors, je parle de l'exemple que nous vivons au quotidien. Par exemple, pour les personnes qui sont accompagnées auprès de notre association, ce sont des personnes qui bénéficient avant tout de la reconnaissance de travailleurs handicapés. Et donc, cette reconnaissance se fait par la MDPH de Strasbourg.
MDPH, juste pour les personnes qui ne connaissent pas.
C'est la maison départementale du handicap.
Des personnes handicapées.
Voilà. Donc, pour obtenir cette RQTH qui est primordiale pour la prise en charge, il s'agit de remplir un formulaire que l'on trouve sur Internet et un formulaire avec des critères donc spécifiques, enfin les critères personnels et le projet de vie aussi, ce qui est important. Et avec ce formulaire, bien sûr, ce formulaire est accompagné d'un certificat médical émanant soit d'un psychiatre ou d'un médecin pour vraiment parler du handicap spécifique et de donner vraiment les choses avec précision. Mmh. Ensuite, la commission de la MDPH se réunit, je crois que c'est tous les mois, et pour donner un avis favorable ou non à, par exemple, l'intégration auprès de notre association pour aller vers le milieu ordinaire ou l'entreprise, l'ESAT, par exemple.
C'est peut-être une question un peu technique ou précise, mais est-ce que vous savez combien de dossiers sont étudiés par mois par la MDPH ?
Je n'ai pas de chiffres à ce jour, mais ça.
Je pense que par an, alors je ne suis vraiment pas sûr des chiffres, mais je crois qu'on est un truc du style 200 000 dossiers par an ou un truc comme ça.
Je sais que c'est phénoménal.
Que c'est énorme, vraiment. Donc, comme disait ma collègue, effectivement, il y a la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé qui va être attribuée par la MDPH. Cette attribution ne donne pas droit à des aides financières. Mmh. C'est une reconnaissance administrative de la part de la MDPH, parce qu'on parlera aussi tout à l'heure, il y a la sécurité sociale qui est encore autre chose. Ouais. Mais par rapport à la MDPH, où là, c'est une reconnaissance. C'est-à-dire qu'en soi, c'est la société qui reconnaît qu'aujourd'hui, telle personne, par rapport à son handicap, est en situation de handicap. D'accord ? Ce qui est important
par rapport
aussi,
à des critères essentiellement médicaux,
sociaux et professionnels.
Voilà,
d'accord.
C'est ça.
Donc c'est une vision d'ensemble, hein. C'est pour ça qu'on parle bien de situation de handicap.
C'est important.
Et
ouais.
Ce qui est important aussi, c'est que sur la notification donc, de la MDPH, il n'y a pas marqué la nature du handicap.
D'accord.
Il y a marqué juste, vous êtes reconnu en situation de handicap. En tout cas, il n'y a pas marqué la nature du handicap.
C'est à partir de 80% qu'il le note.
D'accord.
Voilà, c'est
donc,
ça.
Donc, il y a juste la notification comme quoi la personne est reconnue en situation de handicap, mais il n'y a plus de précision par rapport au handicap et il n'y a pas de précision par rapport au handicap et il n'y a plus le taux de handicap qui est inscrit dessus.
Sauf à partir de 80% parce que quand ça nécessite une carte d'invalidité.
D'accord. Mmh.
Parce qu'il faut avoir ce taux-là pour obtenir une carte d'invalidité.
D'accord.
Et il y a aussi du coup les orientations donc, professionnelles, comme disait Anita, et les orientations vers des établissements particuliers, qui sont du handicap, etc., ou d'autres choses, quoi.
Ce qui est justement ma prochaine question. Alors, je ne sais pas si vous aviez terminé de répondre justement aux critères, mais... Ouais, ouais, vas-y. Yeah,
je permets juste pour continuer là-dessus, par rapport à la reconnaissance du taux de handicap par rapport à la sécurité sociale. En fait, la CPM de Strasbourg, c'est national, toutes les CPM, en fait, ont une vision beaucoup plus médicale que la MDPH. Et donc, le taux peut être différent de reconnaissance entre le taux qui est reconnu par la sécurité sociale et le taux qui est reconnu par la MDPH. Donc, je me permets de préciser parce que souvent, les gens qu'on accompagne n'ont pas les mêmes taux et ne comprennent pas pourquoi. Parce que la MDPH a une vision plus générale avec le social et le professionnel et la vie quotidienne, etc. Alors que le côté sécurité sociale va prendre quasi exclusivement le médical. Et donc, va avec le médecin conseil, etc., va vraiment s'appuyer là-dessus, quoi.
Je souligne d'ailleurs l'importance aussi des médecins conseils des CPAM et aussi des médecins du travail, hein, qui sont pour nous de grands informateurs avec lesquels on travaille beaucoup pour intervenir en entreprise.
Justement, par rapport au monde du travail à l'entreprise, quels sont les critères ou les conditions pour, à partir d'une situation de handicap donnée, décider d'un environnement de travail adapté, un ESAT, j'imagine, ou si la personne peut travailler en entreprise conventionnelle?
Alors, une fois de plus, ce sont avant tout les critères médicaux, forcément, hein, qui vont définir effectivement les prises en charge, hein, dans les établissements, mais toujours en accord aussi avec la personne. Hein, donc, alors... On peut revoir les dossiers en cours de route aussi. Si, par exemple, une personne a une orientation en milieu ordinaire de travail, nous, souvent, on travaille le projet professionnel, on commence par faire des évaluations en milieu ordinaire et on peut, au fur et à mesure qu'on voit la personne, qu'on travaille avec elle, se rendre compte que, aussi avec les résultats des évaluations, se rendre compte que la personne ne tiendra pas sur le long terme. Dans les évaluations que nous, on fait pour après prendre les résultats de ça, prendre ça
pour les orienter vers
ce qui est plus adapté. C'est des fois, il faut faire les faire travailler 15 jours ou 8 jours, voir ce que ça donne, faire les évaluations avec des employeurs qui vont aussi nous donner leur regard sur le travail qu'ils ont fait.
C'est un travail de collaboration, en fait.
Ah, tout à fait.
C'est un travail de collaboration. Et ce qui est important aussi de souligner, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter à l'a priori qu'on peut avoir sur la personne. C'est-à-dire que d'expérience, je pense que ma collègue Anita ne va pas me contredire, mais c'est que certaines personnes, on va les voir, on se dit « Oh là, ça va être très compliqué, je pense que le milieu ordinaire, on peut oublier, on va tout de suite aller sur le milieu protégé, donc les établissements et services d'aide par le travail, donc les ESAT, on appelait CAT avant.
Oui. »
Et du coup, il va falloir aller là-dessus parce que ça ne va pas être possible, etc. Ou des gens qui n'ont pas travaillé depuis très 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 longtemps. Et notamment, moi j'ai un exemple, quelqu'un que j'ai accompagné, pas longtemps pour le coup, qui n'avait pas travaillé depuis 17 ans.
D'accord.
C'est énorme. Et finalement a réussi, et là je me disais pareil, voilà, ça va être très compliqué, et au final a réussi à trouver du boulot dans le nettoyage à temps plein, du jour au lendemain, quoi. Et il faut pas s'arrêter à l'a priori qu'on peut se faire, parce que, et dans l'autre sens aussi, hein, quelqu'un va se dire, oh là là, c'est super, lui il a l'air proche de l'emploi, on va pouvoir y aller, etc. Et en final on se rend compte que à travers les évaluations justement que en fait non, c'est pas si simple que ça, et que va peut-être falloir adapter certaines choses parce que non, en fait il va y avoir d'autres difficultés qui vont se découvrir en milieu en emploi, en milieu ordinaire, où voilà, il y a une donnée qu'on n'avait pas pris en compte et qu'on n'imaginait pas, où au final voilà, il y a d'autres choses qui apparaissent et qui font que la personne, il va falloir aménager le poste parce que tel quel, c'est pas possible, quoi.
Et puis on se rend compte aussi au cours des accompagnements, donc simplement des rendez-vous qu'on donne régulièrement à nos personnes, que tout à coup revient une sorte de stress, une peur d'aller vers le milieu ordinaire, Hein. Et puis, et après, bon, évidemment, c'est pas là tout de suite qu'on prend une décision de changer, mais à la réflexion, c'est quand on sent que vraiment la personne ne tiendra pas la route dans ce milieu-là, on va nous se permettre de, bien entendu en accord avec la personne et avec un médecin, voir si on peut éventuellement demander une autre orientation dans un milieu donc qui est protégé, c'est-à-dire où il y a quand même quelqu'un derrière eux au moment où ils travaillent.
Justement, par rapport à cette intégration dans le milieu professionnel, on sait qu'il y a des lois pour favoriser justement l'accès à l'emploi des personnes en situation de handicap. Mais là, c'est peut-être une question un peu critique, mais au final, est-ce que ces mesures mises en place sont respectées ? Est-ce que vous trouvez qu'en milieu professionnel, la personne en situation de handicap a sa place ?
Alors, bien entendu qu'elle a sa place dans le milieu professionnel et bien au contraire, je veux dire, le milieu professionnel est pour la plupart des personnes une sorte de bouée de sauvetage, je dirais. Hein, quand ils sont fiers et très contents d'eux la plupart du temps quand ils ont démarré un emploi et surtout dans la durée quand ça peut durer sur le long terme, d'où l'importance aussi de nos accompagnements. Je me permets de le dire parce qu'on a on est là quand ils ont besoin de nous. On intervient également pour les professionnels et voilà quand ils ont des interrogations sur certains comportements ou en entreprise ou ailleurs ou face aux collègues, etc. On peut être amené à intervenir pour expliquer aussi le problème du handicap en entreprise.
J'imagine que c'est une forme d'accomplissement de soi pour la personne en situation de handicap de pouvoir justement avoir un travail, c'est une fierté aussi.
C'est une fierté inimaginable. C'est quelque chose quand il faut leur laisser le temps de s'adapter. Ça, c'est très, très important. Hein. Ce sont des gens qui ont besoin de repères. Et ces repères se fabriquent avec la construction du nouvel environnement de travail. Et ça, il faut un peu de temps. Donc, il faut leur laisser ce temps d'adaptation où ils vont peut-être être un petit peu craintifs ou poser des questions, etc. Et peu à peu, nous, on peut vraiment affirmer que le travail est quelque chose de merveilleux pour eux.
Et ouais, vas-y.
Et du coup, je voulais juste compléter en disant que effectivement, souvent, le travail est une valeur en fait très importante en France. On a une valeur travail très forte, et on peut s'en très vite rendre compte quand vous allez rencontrer quelqu'un assez rapidement. En fait, on va vous dire bon voilà, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Et souvent, une difficulté qu'on peut avoir, en fait, que les personnes qui sont en situation de handicap psychique, notamment, mais ça va là pour d'autres types de handicap, j'imagine, quand ils vont rencontrer quelqu'un, de dire qu'ils sont au chômage. Donc ça, c'est quasiment tout demandeur d'emploi, en fait, connaît cette pression-là de « qu'est-ce que je vais lui dire ? Je suis en conversion professionnelle, bon, c'est un peu flou, je ne sais pas trop, etc. » Et le fait de dire qu'il ne travaille pas, souvent c'est une pression sociale et sociétale encore plus importante qui va souvent avoir complètement un effet néfaste parce qu'on va se mettre encore plus la pression pour pouvoir travailler absolument, etc. Et donc comme disait Anita tout à l'heure, des fois il y a des personnes qui ne sont pas en capacité de travailler en milieu ordinaire de travail, entreprise classique, etc. ou tout simplement pas du tout en capacité de travail tout court. Et souvent, notre rôle aussi, c'est d'amener la personne à l'accepter. Parce qu'il y a la pression familiale, la pression que la personne se met, qui est souvent énorme, plus la pression de la société, etc., de « il faut travailler ». Et c'est une valeur très importante. Et souvent, c'est une très grosse difficulté que les gens, ils ont. C'est que c'est le miracle. C'est ça, c'est « il faut absolument travailler », c'est salvateur, c'est « il faut absolument travailler ». Ça va régler tous mes problèmes, le fait de trouver un emploi. Et souvent, c'est quelque chose qu'on a en difficulté, c'est de leur dire, le but, c'est de travailler un projet professionnel et, si c'est possible, d'aller sur quelque chose qui vous corresponde, mais pour rester dans le temps. C'est-à-dire que nous, au niveau de l'association, on ne fait pas du placement. Il y a d'autres associations, d'autres entreprises qui le font. Nous, on n'est pas là-dedans. Pour nous, c'est on préfère que la personne trouve un emploi, mais en respect avec ses envies, ses souhaits, ses capacités, etc. Et pas de dire, bah voilà, tu vas aller à tel endroit, lundi je t'ai trouvé du boulot, bon tu tiendras que 2 semaines, mais c'est pas grave. Voilà, il y a des entreprises, des endroits qui le font, je ne donnerai pas de nom, mais on sait que ça existe. Nous, notre volonté, notre philosophie, j'ai envie de dire, c'est de faire ça dans le temps. Alors effectivement, l'accompagnement peut prendre du temps, mais c'est un temps qui est nécessaire pour faire bien les choses. Et on sait d'expérience que par contre, une fois que les gens ils y sont, ils y restent. Et c'est ça qui est important et qui fait toute la différence. Donc après, par rapport à la société, il y a 2 organismes qui sont importants. Enfin, il y en a plusieurs, mais 2 gros, c'est l'AGFIP et le FIPHFP. Donc, ces 2 organismes, l'AGFIP pour tout ce qui est privé et le FIPHFP pour tout ce qui est public, ce sont des organismes collecteurs. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont collecter les contributions des entreprises privées et associations, enfin, entreprises privées et le FIPHFP pour tout ce qui est public. Et en fait, chaque structure doit avoir au moins 6% de personnes en situation de handicap dans leurs effectifs.
D'accord.
À partir de 20 salariés.
À partir de 20 salariés. À partir de là, en fait, ils peuvent avoir des aides particulières pour les embauches, pour les contrats de travail dans la durée, etc. Il y a des dispositifs qui existent aussi particuliers, par exemple pour le dispositif de lourdeur du handicap qui permet d'une prise en charge, par exemple, partielle de la perte de production par rapport à la personne qui est en situation de handicap dans une entreprise, etc. C'est des dossiers qui sont assez lourds à monter, mais qui existent et qui fonctionnent. Enfin voilà, il y a plein de petits dispositifs comme ça qui peuvent faire la différence. La difficulté, souvent, c'est qu'ils sont méconnus. C'est-à-dire qu'on ne sait pas que ça existe. Et c'est ça la grosse difficulté. C'est un de nos rôles aussi, après, à ça. Il y a aussi, juste pour finir sur ça, il y a Cap Emploi et le SAMET qui ont fusionné maintenant.
D'accord.
Donc, Cap Emploi, enfin, Cap Emploi SAMET, parce que maintenant, il s'appelle comme ça. Mais par ailleurs, c'était Cap Emploi pour tout ce qui était le prolongement de Pôle Emploi. Sauf qu'ils accompagnent toute personne qui sont en situation de handicap.
D'accord.
Tout handicap confondu. Et le SAMET pour tout ce qui est maintien en emploi.
D'accord.
D'accord. Donc, et ce qui est important, c'est qu'une personne lambda peut contacter directement le SAMET en disant voilà, je suis en entreprise, j'ai des difficultés, je peux directement contacter. On n'est pas obligé de passer par le médecin du travail ou par...
tout type de handicap confondu.
Ouais, tout type de handicap confondu. Et après, le SAMET ou Cap Emploi, parce que maintenant ils sont regroupés, va pouvoir analyser la situation et proposer soit un accompagnement vers ce qu'on appelle un prestataire, donc par exemple ça peut être le CIMOD comme d'autres organismes, ou gérer en direct et voir qu'est-ce qui est possible avec l'employeur, comment il y a des aides qui peuvent être mobilisées, faire une analyse de poste, les aménagements physiques ou temps de travail, etc. Quoi.
J'imagine qu'il n'y a pas de contre-indication. Si, par exemple, dans le replay que je vais poster, si d'ailleurs, vous, auditeurs, vous souhaitez réécouter cette interview, eh bien, que je poste sur Facebook, notamment, les différents organismes susnommés qu'on a dit pendant l'interview. Ouais, je vois qu'un grand sourire avec un hochement de tête. Merci. Merci beaucoup Yann Lejeune et merci beaucoup Anita Polican.
Je vous en prie.
D'avoir participé à cette interview. Et voilà, j'espère qu'on pourra se recontacter pour de prochaines interventions. En attendant, je vous souhaite une très très bonne continuation. Merci pour votre service et votre travail. Merci à vous.
Merci à vous.
Merci.